Après le temps des ordinations presbytérales et des ordinations diaconales que nous célébrons habituellement en fin de mois de juin, voici les apostolats de l'été, les premières messes, les missions nouvelles. À l'épisode des cadeaux, les cadeaux du ciel, avoir reçu la magnifique ordination ministérielle et tous les beaux pouvoirs qui y sont attachés, celui de réaliser le corps et le sang du Seigneur, celui de pardonner les péchés, celui de guérir par des onctions, les cadeaux de l'Église qui donne une faculté de prêcher, une faculté de confesser, qui donne un champ apostolique, qui donne une belle paroisse, les cadeaux de la terre, cela inutile d'en faire la liste. Après cet épisode des cadeaux succède le moment des travaux. Et le Seigneur convoque, comme à l'embauche et à la mission. Le verbe utilisé dans notre évangile, appeler, c'est bien cela, réunis pour un travail. Avec un programme clair, le royaume, la conversion des pécheurs, un programme exaltant, chasser les démons, guérir de nombreux malades, mais un programme exigeant et surtout un programme dépouillé. Et un programme qui n'est pas sans opposition. Jésus le rappelle à plusieurs reprises, que nous avons déjà entendu ces derniers jours, lors des messes de semaine. Il nous le redit aussi par l'épisode de la vie d'Amos. Amos, pauvre prophète, chassé du sanctuaire officiel par ce que l'on pourrait appeler les fonctionnaires du sanctuaire. Tant il est vrai qu'il y a dans l'Église, comme en dehors de l'Église, ceux qui pensent au ministère en heures et jours ouvrables. Or, nous avons ici un épisode assurément fondateur, celui que nous avons entendu dans l'Évangile du jour. Fondateur, évidemment, comment ne pas l'évoquer, parce que tout particulièrement le lieu parallèle en Matthieu de cet Évangile de Marc que nous avons entendu, c'est la page d'Évangile chérie et programmatique de notre Père Dominique, celle qu'il a tant méditée et celle sur laquelle il s'est appuyé pour un nouveau propos de vie et réunir des hommes autour de lui pour suivre le Christ. Mais cette page est aussi assurément fondatrice pour tout fidèle du Christ, parce que cette lecture et nos deux autres lectures nous ramènent à la racine de la vocation et de la mission, ce qui nous concerne tous, chacun à la place que le Seigneur a voulu pour nous. Ces pages nous renvoient aussi aux écueils, et non des moindres. Cet écueil de l'accumulation, cet écueil de l'impératif de l'épanouissement personnel, cet écueil de la maîtrise parfaite du projet, ces appétits de sécurité et de puissance qui font presque oser l'oxymore d'un matérialisme, y compris spirituel. Le matérialisme, l'hédonisme peuvent être aussi spirituels. Et ils ne sont que des pièces de garde-robe, des oripeaux de la peur, en réalité. Il y a aussi derrière ces écueils, accumulation, épanouissement, projet, impératif, cette quête de la liberté, cette définition de la personnalité dont nous sommes tous, fils et filles de la modernité, tributaires. Il ne peut y avoir de liberté que dans l'autonomie, il ne peut y avoir de personnalité que dans la puissance. Or, le Seigneur nous rappelle tout autre chose, avec sa grande douceur et dans son infinie sagesse. Il nous rappelle tout d'abord que la mission, quelle qu'elle soit, est indissociable de la vocation. Chacun est envoyé parce qu'il a d'abord été appelé. Et que cette vocation reste pour toujours absolument gratuite et radicalement mystérieuse, y compris pour celui ou celle qui a été appelée. Amos ne nous dit pas autre chose. Décidez bien ce que vous voudrez de moi, mais moi je ne suis là que par le Seigneur. J'étais un ouvrier agricole et me voici prophète, mais je ne cesserai pas de prophétiser puisque je le fais au nom du Seigneur. Et les épisodes précédents, notre péricope d'évangile, qui sont relatifs à l'appel des premiers disciples et à la désignation des apôtres, nous rappelle aussi ô combien cette vocation est gratuite, déroutante et reste mystérieuse. Or, cette vocation, c'est l'élan même de la mission. Le Seigneur nous rappelle aussi que cette vocation, qui est l'élan de la mission, repose sur une fondation. Il nous a été donné d'entendre le très beau passage de l'Épître aux Éphésiens où nous est rappelée la première des réalités. Notre vocation, toute vocation est fondée dans l'amour du Christ. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour les hommes. Mais cet amour qui est de toujours à toujours, et qui nous veut pour sa gloire et dans sa gloire. Dès lors, et c'est le troisième rappel que nous entendons, il n'y a rien à craindre du dépouillement. Il est même, au contraire, indispensable. Non pas un dépouillement fait d'insouciance, sans se préoccuper de quoi que ce soit, et l'on verra bien. Au contraire, ce dépouillement est plein de réelle et juste conscience, parce qu'il est fait de l'exacte mesure des choses. Être appelé si gratuitement, si radicalement, si magnifiquement, pour une mission aussi exaltante, ne peut être qu'un appel adressé à un pauvre qui se sait si pauvre devant la grandeur de ce qu'il reçoit, devant la grandeur de ce qu'il a à faire. Ce dépouillement, il est aussi le meilleur rempart contre l'idolâtrie qui ne cesse jamais de ressurgir. Cette idolâtrie de nous-mêmes, ce temple à la divinité personnelle, toujours détruit, mais toujours un peu rebâti et rééquipé, redécoré. Ce dépouillement qui, pour nous, fidèles du Christ, n'est dépouillement qu'à l'imitation du Christ, et donc avec la force du Christ. Voilà le rappel reçu aujourd'hui dans un été déjà engagé, un été supposément fait de repos, nous dit-on. Au travail !